train. Ok. Est-ce que vous avez les photocopies de la semaine dernière? Ceux qui étaient là la semaine dernière. Ceux qui n'étaient pas là, je vous passe quand même. Je vais être bon. Voilà, donc des textes, demandez pour ceux qui n'ont pas. Hein. Donc, j'explique, hein, qu'est-ce que nous faisons pour les personnes qui viennent pour la première fois. Je vous explique un peu qu'est-ce que c'est notre travail, là, le jeudi soir. Le point, c'est le suivant. Donc, nous étudions verset par verset le livre du prophète Samuel, en français Shmuel. Et on n'a pas commencé au début, on a commencé au 8e chapitre. On a commencé au 8e chapitre. Donc, le point, c'est le suivant. Donc, l'intérêt de cette étude, c'est de prendre les versets l'un après l'autre. Versets l'un après l'autre, de découvrir le texte et de faire, ressortir la réflexion du texte lui-même, des versets eux-mêmes, et des fois même de la racine des mots hébraïques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le 8e chapitre? Dans le 8e chapitre, les enfants d'Israël demandent au prophète Shmuel un roi, parce que depuis que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas d'instance politique centrale pour unifier politiquement le peuple juif. Alors, Shmuel prend ça très mal et Dieu dit au prophète c'est vrai, c'est pas trop terrible leur manière dont ils ont demandé, mais je vais leur répondre positivement et tu vas nommer un premier roi pour le peuple d'Israël. Chapitre 9. Un jeune homme qui s'appelait Shaoul, en français Saül, son père a perdu des ânesses. Son père lui dit, mon garçon, est-ce que tu peux aller chercher les ânesses? Ok, etc. Patati patata. Et finalement, ils arrivent, après 3 jours où ils tournent en rond, ils arrivent dans le village où se trouve le prophète Shmuel. Et Dieu avait dit au prophète Shmuel, il va y avoir un jeune homme qui va venir te voir. Et c'est lui que tu vas nommer roi du peuple d'Israël. Okay. Et après avoir lui avoir fait comprendre ça, il passe la nuit à lui enseigner. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le prophète Shmuel passe la nuit à enseigner au jeune Shaoul. Rachid dit à craindre Dieu. Et le lendemain matin, il lui dit, voilà, tu vas partir d'ici, et voilà qu'est-ce qui va se passer. Tu vas aller dans ton chemin et tu vas rencontrer 3 personnes. Et c'est ça, ce que 3 personnes. Et ces personnes, les 3 portent chacun un chevreau, une personne porte des miches de pain. L'un te donnera des miches de pain, l'autre il en outre de vin. Donc c'est le prophète lui dit exactement qu'est-ce qui va se passer. Ça c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Et point fondamental, c'est que, et on va un peu développer ça, que dans notre tradition, les choses ne sont pas fondées, au risque de vous choquer, mais vous savez que j'aime bien choquer, c'est un petit plaisir de l'existence, hein, choquer. C'est agréable. Non, enfin, je sais pas, ça dépend qui, hein, moi j'aime bien. Il n'y a pas une dimension de foi dans la tradition juive. Voilà. Ça ne marche pas sur la foi. C'est-à-dire, style, je ne suis pas un grand lecteur de philosophes, mais disons, le pari de Pascal, vous avez entendu parler? À l'école, on a appris ça. Pari de Pascal, style, bon, finalement, faisons le défi de la foi. Ça, ce n'est pas du tout juif. Ce n'est pas juif. Ce n'est pas ça du tout. Dans notre tradition, ça ne marche pas du tout comme ça. La preuve, c'est notre texte, que Dieu dit au prophète, voilà, tu vas partir d'ici, et voilà qu'est-ce qui va se passer, et voilà qu'est-ce qui va se passer. Et il va authentifier que ce que le prophète lui a dit est vérifiable. Voilà. On vérifie, c'est pas, c'est que notre quotidien, notre vécu, authentifie ce que la parole prophétique dit. Je dirais ça de manière, si vous voulez, par une image. Toutes les traditions, comment dire, toutes les traditions promettent à leurs croyants le paradis. C'est connu. Ouais, c'est connu. Eh bien, ils l'ont pompé de la Torah. Mais, pour nous, on dit que Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. C'est-à-dire que vivre le Shabbat dans ce monde-ci nous donne déjà un avant-goût de qu'est-ce que c'est le monde futur. Ou alors plus, qu'il y a une chanson en yiddish. Vous connaissez tous le yiddish? C'est bon? Ça roule, hein? Bien sûr, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Moussa, c'est bon? Hein? Alors, il y a une chanson en yiddish qui dit « Oilom abo istagut tozar, lernen teire sabest tozar ». Comprenez? Ouais. Ça veut dire... Le monde futur, c'est bien. Étudier la Torah, c'est mieux. C'est-à-dire que Olam Haba, donc c'est Olam Haba, Istagut Ozar. C'est comme en allemand. Ouais. C'est une bonne chose. Le monde futur, c'est une bonne chose. Mais étudier la Torah, Istabest Ozar, c'est une meilleure chose. Parce qu'on étudie la Torah, on a déjà dans notre vie, on a le kiff de qu'est-ce que c'est le monde futur. Si vous voulez, en vérité, c'est mieux d'étudier la Torah dans ce monde-ci. Parce qu'après la mort, je ne sais pas, c'est tranquille, votre portable ne sonne pas, il vous dit salut, on ne tweet pas sur. J'imagine, ouais, il n'y a pas de Twitter. On n'a pas des messages Facebook post-mortem. Enfin, a priori, enfin. Ouais. Donc, dans le monde futur, on n'est pas dérangé. Mais dans ce monde-ci, où on peut être dérangé, on peut avoir... on a faim, on a soif, on est crevé, on a des soucis de fric, des soucis, je ne sais pas, des soucis sentimentaux, des soucis familiaux, on a 36 trucs dans notre vie... Et quand même, dans ce monde-ci, on puis être là et avoir la joie d'étudier la Torah, de ce qui fait de s'éclater pour comprendre des choses de la Torah, c'est et parfois on comprend quelque chose. Alors ça, c'est super classe, quoi. C'est mieux. C'est-à-dire, on vit déjà dans ce monde-ci quelque chose. Et c'est le fait d'étudier la Torah et de vivre Torah ou mitzvot qui va faire que on pour nous ça c'est pas tellement des problèmes de comment dire, c'est vrai, la vie des fois nous met en face de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre. Imaginons, on peut pas même imaginer les personnes là pieuses à qui c'est arrivé, ce qui est arrivé là à Toulouse. Ces gens-là étaient connus, disons, par exemple, le jeune homme là de 30 ans qui est décédé était voisin d'un de mes fils à Jérusalem. Ça, c'est pas hein, quelqu'un d'inconnu, c'est le monsieur là dont sa fille de 7 ans et demi décédée, M. Monsonego. Je lui ai parlé X fois au téléphone, je ne l'ai pas connu, je ne connais pas personne, mais j'ai parlé X fois au téléphone avec lui. C'est pas des inconnus, je veux dire, c'est des gens qu'on connaît, ouais, ce qui est arrivé. Est-ce qu'on peut comprendre? Je ne sais pas si on peut comprendre, je ne sais pas si c'est possible. Mais si je peux me permettre, quand on vit Torah au mitzvot, quand on vit Torah au mitzvot, c'est des épreuves terribles, peut-être trop terribles. Mais ça ne remet pas les choses en question. Parce qu'on vit les choses. Ça ne remet pas les choses en question. La jeune femme, la veuve là, la jeune femme qui attend son bébé, elle a dit qu'il faut continuer à étudier. Elle a dit, je ne sais pas si vous avez reçu une vidéo comme ça, elle a dit il faut continuer à étudier. Ça ne se remet pas en question, on vit les choses, on vit. C'est pas des questions de foi, c'est des questions de vécu. La tradition juive, c'est une question de vécu. Alors, le prophète a dit, voilà, tu es nommé roi. Tu es nommé roi. Il a dit, voilà, je vais authentifier ce que je viens de dire. Alors maintenant, fort de ça, on va prendre les versets. Alors, le verset, donc chapitre Yud, verset E. Donc, je prends le texte. Vous avez là le chapitre Yud. Là, c'est Yud. Verset E. Acharken Tavo, Givat Elokim. Acharken Tavo, Givat Elokim. Donc, le prophète dit, voilà, donc, je viens de te nommer roi. Oui, je viens de te nommer roi et tu vas me quitter là maintenant, tu vas partir à tel endroit et voilà qu'est-ce qui va se passer. Raken Tavo, après, tu viendras Givat à Elohim sur la colline de Dieu. Oui, tu iras Givat à Elohim. Sur la colline de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la colline de Dieu? Rashi explique, c'est Kiryat Yeharim, où se trouvait à l'époque l'Arche d'Alliance qui avait été prise par les Philistins. Donc j'explique, juste avant cet épisode, il y a eu une bataille entre les Philistins et le peuple d'Israël. Et l'Arche d'Alliance, où il y a les tables de la loi, a été prise par les Philistins. Et les Philistins ont amené l'Arche d'Alliance à un endroit qui s'appelle Kiryat Yearim. Aujourd'hui, vous savez où c'est Kiryat Yearim? Vous êtes déjà allé à Jérusalem? Oui. Et vous rêvassez quand vous allez à Jérusalem, je sens. Là, vous ne regardez pas autour de vous. Là, vous roupillez en bagnole. Avant d'arriver à Jérusalem, quand vous venez de la côte, de Tel Aviv par exemple, il y a la route passe à Mevaseret Sion. Ensuite, Mevaseret Sion, il y a Telstone à gauche. Il y a, sur une colline, c'est écrit Telstone. Et c'est Telstone, mais la route, elle monte, c'est écrit Kiryat Yearim. Sur la colline là, ben c'est là dont on parle. C'est cette colline, Kiryat Yearim. La prochaine fois, vous regarderez. Kiryat Yearim. Alors, tu iras sur la colline de Dieu. C'est quoi la colline de Dieu? C'est là, en vérité, où il y avait les Philistins. Il y avait les Philistins. Donc les Philistins et les enfants d'Israël s'étaient imbriqués, si vous voulez. Philistins, c'est Ouais, c'est le même mot, hein. C'est impliqué l'un dans l'autre. Ils se côtoyaient, ils se faisaient des bagarres de temps en temps, mais en vitesse de croisière, comme on va voir là, entre deux bagarres, ils se côtoyaient, quoi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Aharkem Tavo, El Givat et Aïlokim, Achersham Netzivé Pelishtim, où se trouvent les soldats philistins. Vayehi Kevoach Hasham, Haïr, quand tu arriveras là-bas dans cette ville, ou Fagata Revel Nevi'im Yordim et Abama, tu rencontreras un groupe de prophètes qui viennent de l'autel. Manifestement, l'Arche d'Alliance était chez les Philistins, mais les Philistins permettaient aux Juifs de faire un autel avec des sacrifices là-bas. Donc vous voyez qu'entre deux bagarres, il y a un genre de paix des braves comme ça. Hein? Bien. Donc il y aura un groupe, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent de l'autel. Velifnehem est devant Nevel, Vetov, Vechalil, Vekinor, Vehema, Mitnavim. Et devant eux, devant ce groupe de prophètes, Nevel, alors Nevel, ce sont des instruments de musique. C'est des genres de luth, Nevel, un luth, des luths, Tof, des tambourins, Khalil. Khalil, c'est des flûtes, Vekinor, des genres de viol, Ve'ema mitnavim, et ils prophétisent. Donc prophétiser, qu'est-ce que ça veut dire ils prophétisent? C'est-à-dire il y a le souffle divin qui prend sur eux et ils ont des visions prophétiques. Donc tu arriveras donc à Kiryat Yarim, un groupe de prophètes. Tu passeras avec des instruments de musique, qui jouent de la musique, avec des gens qui jouent de la musique, et ils sont en train de prophétiser. Verset suivant, verset Vav. Vetzalcha alecha ruach Hashem, vitnavita imam, venefarta leishacher. Éclatera sur toi le souffle de Dieu, tu prophétiseras avec eux et tu te transformeras en un autre homme. Venefarta le ishacher. Donc, alors, à l'époque, j'ai expliqué à un cours précédent que aujourd'hui, on n'a pas des prophètes. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Alors, vous pouvez comprendre que c'est balèze quand même, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est assez balèze quand même. C'est-à-dire, nous, on a les portables, les gens nous parlent, mais là, c'est sans technologie, truc, c'est Dieu qui parle à l'homme. Alors, il y avait des disciplines pour devenir prophète. Ce n'est pas on devenait prophète comme ça. Il y avait des disciplines, des écoles. On peut dire aujourd'hui, les yeshivot de l'époque, c'était des écoles de prophètes. À l'époque prophétique, il y avait des écoles où ils avaient des disciplines. Et d'ailleurs, Maïmonide dit que le traité Pirkei Avot, les Maximes des Pères, ce sont des enseignements, des disciplines pour devenir prophète. Des exercices pour devenir prophète. Je vous conseille. Pirkei Avot, ce sont des exercices spirituels pour s'éduquer à la prophétie. Aujourd'hui, il n'y a pas la prophétie. Les yeshivot, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans les yeshivot. Mais à l'époque, ces écoles, c'était des écoles où ils apprenaient à être prophète. Et là, Shaoul, lui, n'était pas dans cette école. Il va donc rencontrer ces prophètes, et en les rencontrant, le souffle divin qui accompagnait ces prophètes va éclater sur Shaoul. Et tu te transformeras en un autre homme. Alors cette expression est très importante. Tu te transformeras en un autre homme. Alors j'aimerais développer cette notion et on va prendre des sidurim. On va prendre les, il y a des ça c'est quoi? C'est des chumash ou des sidur? Chumash. Alors à gauche je crois qu'il y a des sidur. On va prendre des sidur. Bien. Prenez page 61 dans le Patach Eliyahu. Regardez, si quelqu'un veut en phonétique, parce que avec le temps, j'ai appris à dire quand même. Si quelqu'un veut en phonétique. Alors, la prière, dans la prière, la deuxième bénédiction de la prière, des 18 bénédictions, parle de la résurrection des morts, n'est-ce pas? Alors, je vais te prendre peut-être un papier. La deuxième bénédiction, vous voyez, s'écrit Bet. Ata Gibor, Leolam Hashem, Mechaye Metim Ata Rav Leoshia. Ata Gibor, Leolam Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Gibor?
Puissant.
Puissant. Comment? Puissant. Au sens précis, c'est puissant, gibor, fort. C'est gibor, fort. Léolam, éternellement, Hachem, Dieu. Tu es fort, puissant, Léolam, éternellement, Dieu. Me chaye metim ata. Me chaye metim ata. Traduction. Ouais. Tu refais vivre, tu fais vivre les morts, toi. Ok? Alors, cette bénédiction s'appelle, dans l'édition Patach Eliyahu, l'éditeur a mis le nom de cette bénédiction, ça s'appelle Birkat Gevurot, la bénédiction sur la puissance. Alors, j'ai vu un commentaire, le Marsha, Rabbi Shmuel Eliezer Eidels, il donne l'explication suivante. Est-ce que, alors, ça va être notre sujet, une des choses fondamentales de notre tradition juive, c'est la Emouna, la confiance dans la résurrection des morts. Voilà. Bien. Entre parenthèses, est-ce que vous y croyez? Non, mais, enfin, on n'est pas au confessionnal, non, ce que je veux dire, c'est... Je ne vous demande pas, c'était pas, oui, il faut passer à la classe supérieure, non, c'est... Est-ce que ça... C'est vous paraît possible, un truc comme ça? Hein? Moyen, hein?
Moyen.
Moyen. Entre nous. Hein? Comment?
La résurrection
des morts, hein, ça paraît un peu
barbu.
Ah non, justement, c'est tellement. C'est tellement pour nous incompréhensible que c'est tout à fait.
Oui. D'accord, d'accord. Alors on va essayer de voir ça. Alors, ok.
C'est une base hein, de nos traditions. C'est une base. Alors, j'ai vu le Marsha donne l'explication suivante. Comment commence la bénédiction? Atta Gibor, tu es fort, tu es puissant. En général, quelqu'un qui est fort, qui est balèze, le signe qu'il est fort, c'est que je peux t'écrabouiller. Je suis balèze. Ouais, je peux te tuer. Là, c'est comme l'autre. Ouais, ouais, je suis plus fort que vous, je peux vous tuer. Je suis super balèze. Je suis très fort, je peux te tuer. Qu'est-ce que dit ici la bénédiction? Tu es fort, celui qui est mort, tu lui donnes la vie. Ça, c'est le signe d'être fort. Ça, c'est fort. Comme tu dirais. Tu es quelqu'un, c'est... Quelqu'un qui est vivant, le tuer, bon. C'est simple, c'est bidon. T'as le plus fort des animaux, je sais pas moi, et t'as le lion, et il mange la gazelle, le loup, il mange la brebis. Voilà, c'est fort. Ouais, moyennement fort. Mais quelqu'un qui est mort, lui donner la vie, comme qui dirait. Ça, c'est balèze. C'est ça. Tu es balèze, toi, Dieu. Tu es balèze. Quelqu'un. Ça, c'est vraiment fort. Ça, c'est fort, comme on dit en français. Et bien, c'est ça. Ça, alors, faire ça, c'est fort. Quelqu'un qui est mort, lui donner la vie, ça, c'est vraiment fort. C'est ça, ce que. Ça, c'est vraiment le signe d'une force que. Très forte. Ça nous dépasse vraiment. Ça nous dépasse vraiment. C'est à peu près ce que vous dites, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment fort. Voilà. Continuons la bénédiction. Rav Lehoshia, tu as la possibilité de sauver. Continuons. Ensuite, on parle... Que Dieu donne la pluie. C'est quoi qu'il donne la pluie? C'est-à-dire qu'il donne la pluie, c'est la base de notre possibilité de vivre. C'est Moridata, il donne la rosée, ou Mashiv Aruah, ou Morida Geshen. Mechalkel Chaim Bechesed. Pourvois à la vie avec générosité. Me chaye metim berachamim rabim, tu fais vivre les morts avec une grande pitié. Somer noflim verofe cholim ou matir asurim. Tu soutiens ceux qui tombent, tu guéris les malades, ou matir asurim, tu libères les prisonniers. J'ai entendu il y a X années d'un grand médecin qui était dans les années 60-70 un des plus grands psychiatres ici en France qui s'appelait le professeur Baruch, Henri Baruch. Et Henri Baruch qui est décédé, il avait plus que 100 ans. Et j'avais un de mes amis, un de mes élèves qui était psychiatre et comme Baruch était un des plus grands psychiatres du XXe siècle, on était allé le voir il y a une vingtaine d'années, ce monsieur. Et je l'avais invité, je m'occupais d'un centre d'études à Créteil, il y a une vingtaine d'années. Et il avait introduit son exposé que cette bénédiction le guidait dans sa pratique médicale. Qu'il disait qu'il y a des cultures qui font le culte de la force. Par exemple, les nazis, c'est très, très, très important de se rendre compte de ça. Les nazis, les malades mentaux, ils les tuaient. C'est très, très important, ça. C'est extrêmement puissant. Les malades mentaux, les gens que eux, ils considèrent, n'apportent rien dans la société, ce sont des parasites. Oui. Qu'on ne va quand même pas nourrir les gens qui n'apportent rien à la société, entre nous, avec le chômage qu'il y a. Oui. On ne va pas s'occuper quand même des gens qui n'apportent rien. C'est un comble. Alors, vous en conviendrez, vu la crise. Il faut une France forte. Comme... Non. Oui. Alors, Et alors, mais il y en a qui ont joué la carte de la force, c'est-à-dire la vie, c'est les plus forts qui s'en tirent. Ceux qui sont tarés, il faut les éliminer. Mais moi je dis ça, aujourd'hui ça fait rigoler. Il y en a qui ont pris ça au sérieux et qui l'ont appliqué. Ça s'appelait les nazis. Mais c'est fort, ça c'est incroyable. Ils éliminaient les malades mentaux. Et le professeur Baruch nous a dit, on voit ici les maîtres qui ont rédigé la prière. Il nous dit comment Dieu se conduit dans le monde. Il s'occupe de ceux qui tombent, de ceux qui flanchent. Il s'occupe des malades. Il s'occupe des prisonniers. Il perd son temps pour s'occuper de ceux qui sont faibles. Et c'est ça en vérité, ça c'est vraiment la puissance. On dit on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Par exemple, nous, dans notre tradition, aller voir des malades, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est malade, aller le voir, s'occuper de cette personne, c'est une base de notre tradition. Mais nous, on dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a trop de choses à faire. Mais justement, c'est ça la force. C'est ça la force. La force, c'est de se limiter pour s'occuper d'autre chose que de notre moi. Que notre moi. Et de donner la vie à d'autres. De donner la vie à d'autres. D'aider les autres. Ça, c'est la force. La force, c'est de se limiter et de ne pas s'occuper que de ma vie à moi, mais de donner la vie à ceux qui ont besoin. Et alors, vous voyez que ici, la suite de la bénédiction va nous faire comprendre le début. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a l'expérience d'aider quelqu'un qui en a besoin, et finalement de lui donner de la vie à quelqu'un qui est dans le besoin de vie, de quelque chose. Alors après, on aura la émouna aisée que Dieu finalement peut nous donner la vie. Parce que nous-mêmes, peut-être même quelqu'un nous a donné la vie à nous. Et c'est ça ce que le verset dit. Le verset ici dit que le prophète dit à le prophète Shmuel dit à Shaoul, tu vas fréquenter des prophètes et tu vas te transformer toi-même en un autre homme. Tu vas te transformer en un autre homme. Ça va te transformer toi-même. Ça va être mechayem etim. Ça va te donner la vie à toi-même. Ça va te donner de la vie à toi-même de les fréquenter. Tu vas te transformer toi-même en un autre homme. Regardez la bénédiction suivante. Dans la prière que l'on dit plusieurs fois par jour. Donc dans le Patar Eliyahu, on passe à la page d'après. Donc on termine la bénédiction. Venemanata la chayot metim. C'est-à-dire, Nemanata, on a confiance en toi que tu fais revivre les morts. Baruch ata Hashem, mechayem metim. Tu es Baruch, source de bénédiction, tu fais revivre les morts. La bénédiction d'après, regardez, Ata Kadosh. Atta Kadosh. Donc c'est troisième bénédiction. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Donc on traduit. Ata Kadosh, c'est quoi Ata Kadosh? Comment? Oui, alors c'est quoi saint?
Ça veut dire.
Comment?
Séparé.
Oui, d'accord. Donc on pourrait dire tu es différent. Oui. Séparé, ça veut dire tu es différent. Kadosh, ça veut dire tu es séparé. On pourrait dire tu es séparé de quoi? Séparé de toute matérialité. On pourrait dire tu es différent de la manière matérielle d'aborder les choses. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ton nom est Kadosh. Ou que Doshim Becholiom Yalelucha Sela. Traduisons. Jessie, à vous.
Les saints.
Oui.
Tous les jours de nous.
D'accord. Et c'est qui les saints? C'est Owen the Sense. C'est quoi? C'est quoi? Alors, on peut expliquer de différentes manières. D'accord, très bien. Regardez. Ata Kadosh. Veshimcha Kadosh. Tu es Kadosh. Donc, je reprends. Tu es S-I-N-T, saint. Mais bon. Personnellement, je pense pas être seul, avoir du mal à vraiment définir précisément qu'est-ce que ça veut dire ça. Vous avez dit séparé, je traduirais différent. Différent. Tu procèdes différemment de la manière classique de vivre, oui. De voir les choses, de se conduire. Ton nom est Kadosh, c'est-à-dire. Pas seulement toi, mais ce qui émane de toi, ton nom, ta manière même de te percevoir. Pas seulement toi, mais la manière de te percevoir ton nom, la manière dont je peux avoir un lien avec toi et Kadosh. Ou Kadoshim Becholiom Nalucha Sela. Et les saints, chaque jour, te glorifieront, c'est là éternel. Bien. Alors, c'est quoi les Kadoshim? Alors, le sens premier, c'est. Les malachim, les anges, ok. Chose contre nous, ouais. Vous avez une expérience Pas tellement, enfin moi j'ai pas tellement, hein. Peut-être vous, je sais pas. Peut-être qu'on a beaucoup bu à Pourim, mais. Enfin, oui, vous avez. Comment?
Quand on fait la Veda, on peut se situer aux anges, quoi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit être comme Hachem. Voilà, ça.
D'accord.
Ça peut nous concerner, nous. Parce que les anges, on ne voit pas.
Et vous, on est des anges, quoi. Bon, bah, je vous envie. Hein. Je vais dire comment j'explique ça. J'ai pas vu cette explication quelque part, mais je propose de dire comme ça. Que quand on fait ces bénédictions, c'est pas seulement une affirmation, mais c'est une prière aussi. Tu es Kadosh, Veshimcha Kadosh. Tu veux un texte, monsieur? T'as un mot de retard? Donc, Ata Kadosh, tu es Kadosh, Veshimcha Kadosh. Ou Kadoshim Becholiom, Yalelucha Sela. ceux qui sont kadosh, chaque jour te glorifieront. Alors, on peut dire qu'on demande à Dieu qu'il nous fasse fréquenter des gens qui sont kadoshim. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, je reprends la deuxième bénédiction. Nous, on ne sait pas vraiment qui c'est Dieu. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Jeanne d'Arc a eu des illuminations, mais à part Jeanne d'Arc, elle est Lorraine comme moi, ce qui est bien. Oui. Mais à part ça, bon, pas tellement. Ouais. Alors, on a vu dans la deuxième bénédiction que Dieu, il fait revivre les morts. Et ensuite, il s'occupe, on pourrait dire, de ceux qui sont délaissés, de ceux qui chutent, de ceux qui sont dans la difficulté, un peu délaissés pour compte. Voilà. Délaissés pour compte. Ceux qui chutent, ceux qui sont malades et ceux qui sont prisonniers. Donc Dieu qui s'occupe d'eux. Ce qu'il demande en vérité dans le quotidien, vous voyez, il y a des campagnes électorales et on va faire des lois de solidarité, etc. On peut faire toutes les lois de solidarité ou les impôts qu'on veut, ça ne changera rien. Dans le fond, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas une loi qui va faire que je prends en compte quelqu'un qui a une difficulté. Alors, on ne va pas m'imposer, voilà, si tu ne t'occupes pas de quelqu'un qui est déprimé, je te fous en tôle. Ouais, c'est parce que tu fais une démarche pour ça. C'est pas une loi qui va changer quelque chose par rapport à ça. C'est parce qu'il y a une démarche, il y a une puissance, ça demande une puissance de s'occuper de quelqu'un comme ça. De s'arrêter et de s'occuper de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui m'apportera pas forcément un intérêt à moi. Que je m'occupe de cette personne. Que j'aide cette personne. Mais ça, comment on sait ? C'est en vérité parce qu'on a vu des gens qui se sont conduits comme ça. Parce qu'on peut fréquenter des gens qui sont comme ça. Nous, on ne le sait pas, en vérité. Il y a un grand maître qui s'appelait Rav Simra Zissel. Il y a 150 ans, en Russie, il y avait un maître qui s'appelle Rav Simra Zissel. Et il disait comme ça. Darwin, qui dit que l'homme descend du singe, il dit, je comprends très bien Darwin. Je comprends parfaitement Darwin. Parce qu'il n'a pas rencontré mon maître Rav Israël Salanter. Il a vu que des gens qui se conduisaient avec leurs instincts. Donc il dit, finalement, c'est que des gens qui sont mus par leurs instincts, par leurs intérêts, par leurs pulsions. Pourquoi pas ? Il n'a pas vu des gens qui s'occupaient d'autres, qui avaient d'autres choses dans la vie que leurs propres intérêts, qui avaient une démarche dans la vie de comme on vient de voir, de mochaïm etim, de donner de la vie à quelqu'un qui l'a perdu, de donner du courage à quelqu'un qui ne l'a pas. En France, quand on dit, ici en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on dit au revoir, on dit bon courage. Remarqué. Non, mais c'est excellent, j'adore. Ça veut dire, si vraiment on manque de courage, donne-moi autre chose que dire bon courage. Je veux dire, je ne sais pas, dis-moi quelque chose. Je ne sais pas, sois gentil avec moi, tu n'auras pas besoin de dire bon courage. Donne-moi du courage, après on n'en parle plus. Je veux dire. Si tu vois que je suis déprimé, alors, je sais pas, fais-moi rigoler, raconte-moi une blague. Mais ne laisse pas comme ça, comme un imbécile, en me disant bon courage, plaf. Mais si tu vois quelqu'un qui est vraiment mechayem etim, alors après, tu peux avoir l'idée que Dieu est mechayem etim. Et tu verras que c'est possible, finalement, que quelqu'un qui est mort, il peut renaître. Les Chachamim disent dans le Talmud que chaque maître du Talmud, chaque maître qui est mentionné dans le Talmud pouvait faire revivre les morts. Alors, on peut le dire d'un point de vue un peu superstitieux, c'est incroyable, ils pouvaient faire revivre les morts. Ouais. Mais faire revivre les morts, c'est des choses qui peuvent être simples dans notre existence. À quelqu'un qui finalement est à plat, il peut lui donner la vie. Et qu'une parole de Torah, elle peut nous donner effectivement nous permettre de voir les choses complètement différemment de ce qu'on voyait de manière instinctivement, de trouver des ressources dans notre existence sur lesquelles on peut se construire, on peut vivre, on peut se construire. Et c'est ça ce que le verset dit. Tu vas rencontrer ces prophètes et tu vas te transformer en un autre homme. Alors continuons. Regardez, on va aller au risque de ne pas accomplir mon projet de faire verset par verset. On va sauter un peu des versets. Et on va arriver à la chose suivante. Le verset Yudalet. Donc Shaoul quitte le prophète, il va à Kiryat Yarim, ça se passe exactement comme le prophète lui a dit, il arrive là-bas et il prophétise et il se transforme en des capacités qu'il ne savait pas qu'il pouvait avoir, ces capacités dans sa propre existence. Et tout d'un coup, il y a un tonton à lui qu'il rencontre. Voilà, un oncle. Voilà. Verset Yudalit. Vayomer Dod Shaoul. Voyez-vous le verset? Verset Yudalit. On revient dans les versets. C'est fini. Vayomer Dod Shaoul Elav. Velnaro. L'oncle de Shaoul lui dit, ainsi qu'à son page, Anna l'artem. Mais où est-ce que vous étiez passé? C'est incroyable, mais Shaoul, où tu étais tous ces jours-là? On t'a cherché partout. Où étais-tu? Vayomer, les vakesh et ta antonot, vanire kiaïn, vanavo el shmuel. Il a dit, nous sommes allés rechercher les ânes. Nous avons vu qu'on ne les trouve pas. Et nous sommes allés chez Shmuel, chez le prophète. Vayomer Dod Shaoul, Agidanali Ma Amar Lachem Shmuel. L'oncle de Shmuel lui a dit, raconte-moi, qu'est-ce que t'a dit le prophète? Shmuel, c'était le prophète de la génération. C'était le maître de la génération. Alors, son oncle lui dit, avant, t'es allé voir le prophète, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Vayomer Shaoul el Dodo, Aged igilanu kinim tseu a atonot. Et devar amloucha lo igidlo asher amarchumel. Shaoul dit à son oncle, il nous a dit que les ânes ont été retrouvés, mais le sujet de la royauté, il ne lui a pas dit ce que Shmuel lui avait dit. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce verset? Comment? Oui, ben c'est ce que je demande. Vous voyez le truc? Je reprends un peu? Ouais, je reprends? Bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Shaoul, finalement, a cherché avec son page pendant 3 jours les ânes, il ne les trouve pas. Finalement, il va voir le prophète. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Dieu a dit à Shmuel, attention, il y a un jeune homme qui va arriver. Tu vas le nommer premier roi du peuple juif. Fin de message. Il y a Shaoul, il arrive. S'il vous plaît, monsieur, je cherche le prophète, où est-ce qu'il est? Alors, il y a Shmuel, il dit, je suis le prophète. Viens avec moi, petit. Tu vois, et alors il dit, mais monsieur, je cherche les ânesses. Il dit, regarde, les ânesses, c'est pas grave. Parce qu'en vérité, tous les désirs d'Israël sont pour toi. Tous les désirs d'Israël sont pour toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, il a dit, que tout le peuple juif sera à ta disposition. On a vu ça il y a quelques semaines. Ok. Et le prophète dit, marche devant moi. Nous allons nous asseoir pour manger du zévar, du korban shlamim. Et ensuite, toute la nuit, il parle avec lui. Le lendemain matin, dans l'intimité, Shmuel prend une fiole d'huile d'onction, lui met sur la tête et le nomme chef du peuple juif. Et lui dit, voilà, et tu vas voir ça, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Il part avec le page. Voilà. Il part, il y a son oncle. Il dit, eh, dis-moi, mon neveu, on t'a cherché partout, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, ben, j'ai cherché les ânesses de mon père. Finalement, on était à côté de chez le prophète, on est allé voir le prophète. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le prophète? Il a dit qu'on a retrouvé les ânesses. Et le verset dit, verset extraordinaire, « Et devar amloucha, lo igid lo, asher amar Shmuel. » Mais le sujet de la royauté que lui avait dit Shmuel, il ne l'a pas. Pourquoi?
Il n'y croit pas vraiment encore.
Comment?
Il n'y croit pas vraiment encore. Il attend que...
On peut dire ça.
Ça ne se pas si j'avais vu le frappé.
Comment? Bon, il avait fait un petit shampoing. Il avait sa kippa dessus. Pourquoi il n'y a pas de kippa? Il n'y croit pas. Hein,
il
ne
peut pas le dire lui-même. Il ne peut pas le dire lui-même sur lui.
Il
n'y
a
pas
les autres qui le désignent. Oui. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, ça, c'est un point central que nous allons voir dans les versets. C'est très bien ce que vous dites. Là, une pudeur intense. En vérité, quand le verset a dit, on va le voir aussi dans la suite, que Akadosh Baruch Hu a nommé comme premier roi du peuple juif, ce que Dieu a dit, le meilleur du peuple juif. Ah non, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le meilleur. On ne sait pas qu'est-ce qui est le meilleur pour Dieu. Ouais, dans une classe. Ouais, ouais, c'est le meilleur de la classe. Selon quels critères? C'est le meilleur footballeur, c'est le plus rigolo, c'est, je ne sais pas moi, le meilleur. C'est le meilleur par rapport à quoi? C'est celui qui fait le moins de taches d'encre sur ses copies, qui fait le moins de fautes d'orthographe. C'est quoi le meilleur? On ne sait pas qu'est-ce que c'est le meilleur. Il a nommé le meilleur du peuple juif. Là, on voit qu'en vérité, il était gêné, quoi. Il veut pas dire qu'il est roi. Il est un peu... Alors vous dites que pour lui, dire qu'il n'y croit pas, c'est difficile, parce que ça a été authentifié par des miracles, finalement. C'était authentifié toute la journée, il a vu que c'était la parole du prophète s'est concrétisée. Mais le dire, pour lui, peut-être c'est grossier, et aussi, ce que vous dites, le fait... D'accord, le prophète l'a nommé, mais il y a un peuple, peut-être faut-il qu'il soit accepté par le peuple. Donc, il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas dire, voilà, je suis le roi, dis-moi, tonton. Ouais, je suis le roi. Alors, ça, c'est quelque chose de très, très important. Les Chachamim disent qu'ils mettent en relief que Esther est la descendante directe du roi Shaoul. Et nous voyons dans la Megillat Esther, que nous avons étudiée avec plusieurs d'entre vous il y a trois, quatre semaines, je ne sais plus exactement, que on voit quelque chose de central dans la Megillat Esther, que Mordechai lui dit, ne dis pas que tu es juif. Et c'est écrit 3 fois dans la Megillat, elle n'a pas dit son origine. Et les Chachamim disent, en vérité, elle aurait pu se faire valoir, parce que elle aurait pu se faire choisir par l'empereur et devenir impératrice. Il a dit, ne dis pas, justement, pour qu'il te laisse tranquille. Et elle n'a pas dit qui elle était. Elle n'a pas dit qui elle était. Les sages disent, d'où elle a tiré ses ressources? D'où elle a tiré ses ressources de garder, finalement, ce qu'elle est secrète? Ils disent,
de ce verset, de son ancêtre, Shaoul. Les devar amloucha lo egidlo asher amarouch.
La royauté, qui était le principal, la parole de la royauté, il lui a pas dit. Il est secret. Voilà. C'est quelqu'un de secret. Il ne dit pas tout, il ne déballe pas tout. Il a du mal à se faire valoir, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, c'est un mauvais communicant. Il n'est pas communicant.
Il a pudeur alors d'être.
Il a pudeur. Ça, c'est la qualité première de. Qualité première de Shaul. Alors, on va voir les versets d'après, vont persister là-dedans. Et je pense que c'est très très intéressant parce que, bon, on est actuellement dans une période de campagne électorale en France, aux États-Unis. Et là, on est le premier, pas président, mais premier chef du peuple juif. Et pas qu'il est. Ce qui est important, il ne le dit pas. Il dit ce qui est secondaire, mais ce qui est vraiment important, il n'arrive pas à le dire. Quoi. C'est bizarre quand même. On va voir dans la suite des versets qui sont absolument centraux. On va voir. Regardez la suite, le verset Yudzayin. Donc, il a été nommé dans l'intimité totale roi. Mais nommé dans l'intimité totale, c'est pas ça qui fait un roi. Comment le peuple juif va savoir qu'il est le roi? C'est ce que nous allons voir dans le verset Yudzayin. Vayatzek Shmuel et ha'am el Hashem a mitzpah. Alors, la traduction de ce verset est bizarre. Vayatsek. Akiva, comment on traduit Vayatsek Shmuel et Aram? Allez, vas-y, au boulot. Quoi? Oui, Tsaka, alors. Comment? Il a fait hurler. Tzaka, c'est au-dessus de prier, hurler. Alors, regardez Yonatan Ben Uziel, comment traduit-il en araméen, verset Yodzaïn. Ah, vous ne l'avez pas. Ah, ouais, vous ne l'avez pas. Alors, je vous ai photocopié que le texte, mais pas les commentaires. Il traduit « Ukenash Shmuel Yatama ». Kenash, c'est comme kanas, rassemblé, Knesset. Alors, Shmuel a rassemblé tout le peuple vers Dieu au lieu dit Mitzpah. Un lieu dit qui s'appelle Mitzpah. Quoi? Alors, pourquoi rassembler Et la racine du mot rassembler, c'est l'itsok, qui veut dire hurler. C'est-à-dire, il a mobilisé. Voilà. Il a mobilisé tout le peuple, mobilisation générale. Ouais, il a rassemblé tout le monde, mais fermement, quoi. Vayat sec. C'est étonnant que ça c'est dans le langage de hurler. Donc il a mobilisé tout le peuple vers Dieu à Mitzpah. Donc il a rassemblé tout le peuple juif. Verset suivant. Vayomer el bene Israël. Il a dit aux enfants d'Israël. Ko amar Hashem Elokei Israël. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Anochi eliti et Israël bi Mitzrayim. Va'atzil etrem yad Mitzrayim umiyad kol hamamlachot alochatzim etrem. Je vous ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai sauvé de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Va'atem ayom astem et elokechem asher moshia lachem mikol raotechem et tzarotechem. Va'atom gulo ki meler tassim alenu. Va'ata itiatzvu lifne Hashem le shiftechem ou le alfechem. Et aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu qui vous sauve de tous vos maux, de tous vos malheurs, et vous avez dit, car un roi, tu mettras sur nous. Maintenant, tenez-vous droit devant votre Dieu, selon vos tribus, selon vos groupes de mille. Donc voilà, vous êtes tous là devant Dieu. Ok, Dieu a accepté de nommer un roi. Vous allez voir qui est le roi que Dieu a nommé. Donc tout le monde est là, par groupe de mille. Donc c'était, il y avait une certaine hiérarchie. Il y avait les 12 tribus et par groupe de mille. Voilà, comme on voit dans la Torah, il y avait des groupes de mille avec chaque groupe un chef de mille. C'était un responsable. Comme on pourrait dire aujourd'hui, un rave, hein, un maître, pour chaque groupe de mille, etc., qui était le responsable spirituel par groupe de mille. Donc, les 12 tribus sont là. Suspense. Ils ne savent pas, eux, hein, qui est celui qui a été nommé. Verset Kaf. Vayakrev Shmuel. Alors ça, je vais vous dire, c'est parmi mes versets que je préfère personnellement, c'est moi je craque. Ce qu'on va voir, c'est craquant. Verset Kaf. Vayakrem Shmuel et kol shifte Israël. Veilaked shevet Binyamin. Le prophète Shmuel a approché toutes les tribus d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a approché. Rashi explique qu'il avait une boîte sur laquelle était, il y avait 12 cartons, enfin, ou morceaux de bois, sur lequel était écrit le nom des 12 tribus. Il met dans une boîte. Ouais. Nous allons désigner la tribu de laquelle va être nommé le premier roi du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on entend là, à ce moment-là? Les cigales, parce que c'est au Moyen-Orient, ah, oui. Quand y a tout le monde est là. Je reprends. Vayakrem Shmuel et Kol Shifti Israël. Shmuel a approché toutes les tribus d'Israël. Rashi explique, je lis Rashi, à Falpi. Une seconde. Ayu Ktuvim Shema Bigarot Notonim Bekufsa. Vanavi Machnis Yado Benotel Igeret Achat. Tous les noms étaient écrits sur des morceaux de papier, mis dans une boîte. Le prophète met sa main dans la boîte et tire un mot. Donc il secoue. Qui va être le... De quelle tribu va venir le premier roi? Vaïlaket Shevet Binyamin, a été saisi la tribu de Binyamin. Le premier roi vient de la tribu de Binyamin. On applaudit bien fort. Voilà. Kafalef. Vayakrev et Shevet Binyamin, le Mishpechotav. Vatilaket Mishparat Amatri. Ensuite, on amène toute la tribu de Binyamin selon ses familles. C'est-à-dire, la tribu de Binyamin, il y avait des sous-tribus, oui, les familles paternelles de la tribu de Binyamin. Donc, on met tous les noms des familles de la tribu de Binyamin. Silence. Enfin, Tilaked, Mishpachat, Amatri, la famille de Meter, il est de la famille qui s'appelle la famille de Meter. Ensuite, toutes les personnes, troisième tirage au sort, toutes les personnes de la famille de Meter sont écrites sur des papiers. On remet dans la boîte. Alors là, suspense. Bon, on voit ça la prochaine fois. Ah bah oui, un suspense. Ah, il faut du suspense. Ah oui, quand même. Attends, il y a un suspense là. Qui va être le premier roi? Ouais, le prophète met la main dans la boîte. Vaïlaked, Shaul Ben Kish. Voilà, Shaul Ben Kish. Vaïvak Shouhou, Vélonimsa. Il le cherche, il ne le trouve pas. Shaul Ben Kish est demandé sur le podium central. Shaul Ben Kish, roi d'Israël, est demandé sur le podium central. Nous répétons, Shaul Ben Kish est demandé. Est-ce que vous avez vu Shaul? Shaul Ben Kish, vous avez vu Shaul? Où est-ce qu'il est?
Sous le lit.
Comment?
Sous le lit.
Mais où est-ce qu'il est? Regardez le verset suivant. Verset 4. Vaishalu od bashem, abba od alom ish. Vayomer Hashem, inehu nechba el akelim. Alors, ils ont demandé encore à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont demandé à Dieu? Ça veut dire qu'ils ont demandé à Dieu. Alors, le Kohen Gadol, avec ce qu'on appelle le Urim Vetumim, il avait le pectoral. Un pectoral où il y avait les pierres précieuses. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il avait les 12 tribus du peuple juif, 12 pierres, et sur chaque pierre était gravé le nom des tribus. Réhouven, Shimon, Lévi. Donc quand les situations qui concernaient l'ensemble du peuple juif, ils posaient des questions à Dieu et les lettres s'allumaient. Ouais, et là, salut. Ils ont demandé à Dieu les mots suivants qui sont fondamentaux. Vaishalu od bashem. Ils ont demandé encore à Dieu. Abba od alom ish. Est-il venu encore ici cet homme? C'est-à-dire, est-ce que cet homme est ici? Alors, le mot alom est un mot fondamental. Est-ce que, par hasard, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la patience, ou une certaine patience, de lire des passages de mon petit livre?
Mm-hmm.
Non, je sais pas. Parce que c'est un des passages centraux du bouquin.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Je vais pleurer dans mon coin. Non, parce que je fais tout un développement sur ce verset. Non, vous n'avez pas vu?
Bon.
Le mot « alom » est un mot fondamental. « Alom » en hébreu veut dire « ici ». Et « lamed vav mem sofit ».« Alom » est-ce comment? Est-ce qu'il y a un mot que vous connaissez? Bon, peut-être pour les personnes qui ont quelques notions d'hébreu, proche du mot « alom ».
Rêve, rêve, rêve.
Halom.
Halom.
D'accord? Alors, ça, c'est fondamental. Le mot « halom », c'est « chet lamed vav mem ». Et ici, c'est « alom ». Au lieu que ça soit « chet », c'est « he ». Quelle est la différence entre le rêve et la réalité? Bon, c'est une question qui paraît bidon, on dirait une mauvaise question de bac. Comment?
Le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et le rêve.
Voilà, c'est ça. Quelle est la différence entre le rêve, entre le réel et l'imaginaire? Ou alors, c'est le mauvais sujet de bac. Le réel existe-t-il? Alors, c'est vrai que c'est la question bidon de classe de terminale, mais c'est que ça, en vérité, le problème. Ça va être le problème central ici. Ils ont demandé, est-ce que l'homme est ici? Ce qui se dit à l'homme. La différence entre le chet et le hé, c'est la différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est quoi la différence? Est-ce que le réel existe? C'est une grande question. Bon, les philosophes ont travaillé là-dessus, mais pas besoin d'être philosophe pour se poser la question. Monsieur ou madame, tout le monde peut se poser cette question. Est-ce que nous, on est dans un rêve? Parce que là, on est au centre flemme ou non? Ou peut-être on rêve, on est en train de dormir, et qu'on rêve qu'on est au centre flemme. Ou alors, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un réel? Peut-être que c'est... Bon, toute notre vie, on la passe à côté du réel. Quelle est la différence entre le réel? Et on dit que, par exemple, il y a des gens qui sont autistes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'autisme. Enfin, il y a des maladies, évidemment. Il y a des maladies. Mais, je parle, il y en a, on dit, qui ne sont pas autistes. On dit, mais ils sont autistes, ils sont dans leur monde. Est-ce qu'on est dans notre monde ou on est confronté à quelque chose d'autre que nous? Alors, chaque fois qu'on voit le mot « à l'homme », c'est qu'on parle de royauté. Et qu'on parle de royauté. Je vais vous apporter une preuve à ça. Regardons les versets de la Torah. Je vous parle comme dans le Chumash. Alors, c'est dans Shemot, au début de l'Exode. C'est vrai que la question que je pose, est-ce que le réel existe? Bon, c'est vrai, ça fait un peu bidon, ça fait un peu devoir de philo. Mais c'est vrai que
Je ne sais pas si vous avez passé le bac une fois. Non, je ne sais pas. C'est passé le bac. Non, je blague. Mais
bon, on dirait que c'est seulement... On a le droit de se poser des questions seulement parce qu'on est en terminale. Après, la terminale est passée, on passe aux choses sérieuses, quoi. Mais c'est naze, quoi. C'est-à-dire, on peut se poser des questions, même quelqu'un qui n'a pas le bac, il peut se poser des questions. On a le droit, c'est pas, comment dire, sacrilège de se poser des questions dans la vie. Est-ce que le réel existe ? C'est un problème, en vérité, qui n'est pas... C'est pas obligé d'être à la fac pour se poser en fac de philo pour se poser des questions comme ça. Je veux dire, on peut se poser la question, est-ce que je rêve, est-ce que c'est vrai, quelle est la preuve qu'il y a un réel ou non, est-ce que je suis complètement dans mon monde ou non, que je suis en face de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. En vérité, on va voir que c'est le thème central de la notion de royauté. Si Dieu a demandé, après la plupart, on a vu dans notre première étude, dans Sefer Shmuel, qu'il n'y a qu'un seul grand commentaire qui dit qu'il n'y a pas une mitzvah de nommer un roi, vous le savez très bien, c'est Don Isaac Avrabanel. Je ne le répéterai pas, ouais, n'est-ce pas ? À part lui, ouais, tout le monde pense que c'est une mitzvah positive de la Torah de nommer un roi. Et le roi, on va voir, quand on parle de royauté, on voit toujours le mot « alom ». Alom, on pourrait dire, contrairement à « chalom ». Contraire de « chalom », c'est « alom ». Tu as dit l'imaginaire, oui, ou le fantasme. Les hommes politiques, regardez, Baruch Hashem, qu'il y a cette campagne présidentielle extraordinaire. Elle va nous permettre de comprendre plein de versets dans la Torah. Extraordinaire. C'est chacun, regardez, alors, chacun, il a un programme. Il fignole son programme. Et l'autre, il dit, ok, j'ai trouvé, excusez-moi, mon staff m'a donné l'idée, ça va pas être la TVA à 7,5, on a trouvé la TVA à 7,8. Là, c'est mieux, hein. Vous êtes d'accord. La TVA à 7,8, je pense, va résoudre beaucoup de problèmes. Ouais. Et il faut taxer les fortunes entre 1 million d'euros, 1 250 543. Ouais, il faudra les taxer plus à 45%, mais 47%. Je pense que là, on va résoudre les problèmes. Non, putain, les mecs, le mot qui me vient, il rêve. Non, mais il rêve, ça veut dire... Et outre le fait qu'ils nous prennent pour des... Je ne l'ai pas dit. Ouais, mais on sent... Un fantasme, c'est un fantasme. De toute façon, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas du tout de... Si, il y en a qui savent de quoi ils parlent. Ils savent qu'ils racontent des bêtises. Mais un programme, c'est un fantasme, c'est un rêve. On n'est pas dans la réalité. Même il y en a qui vont dire... Alors, moi j'ai été élevé dans une culture que le communisme c'était sacré. Bon, aujourd'hui, vous savez pas qu'est-ce que c'est ces choses-là. On dit ça, je serais un dinosaure, un brontosaure, ouais, serait plus actuel que ce que je viens de dire. Mais il y a une époque où c'était comme ça. Il y a une époque, c'est surtout chez les juifs, si t'étais pas communiste, t'étais pas juif. Il y a une époque, c'était comme ça. Je veux dire, il y a une époque, c'était... On n'a même plus l'idée, qu'est-ce que c'est. Mais même pas seulement chez les Ashkenazim, chez les Sfarades aussi. Je vous conseille un bouquin, mais que j'ai à la maison. Non, ça c'est rien. Il y avait
un monsieur qui s'appelle Henri Curiel. Henri Curiel est le fondateur du Parti communiste égyptien et du Parti communiste soudanais. C'était un juif égyptien. Et Henri Curiel a été assassiné dans les années 80. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. C'était un des grands, très très grands communistes. Il a fondé le Parti communiste égyptien, Parti communiste soudanais. C'est un de ceux, il y avait, pendant la guerre d'Algérie, puisque les gens en parlent aujourd'hui de la guerre d'Algérie, c'est un de ceux qui a organisé le réseau Janson, c'est-à-dire d'amener des valises pleines d'argent de France en Algérie pour financer le FLN. Et c'est un de ceux qui a organisé ça, principalement. Janson, c'était le célèbre, mais celui qui était derrière ça, c'était Henri Curiel. Mais, ok. Alors, il y en a qui disent, en vérité, le communisme, c'était très bien, mais ça a été corrompu par d'autres. Ouais. C'est pas vrai. C'est un système. C'est un rêve, c'est un fantasme. C'est la théorie, elle est pourrie dès le départ. C'est le halom. C'est tout système que l'homme crée. C'est pas que, non, le communisme c'était bien, mais après ça a été dévoyé par Staline. C'est pas ça du tout. C'est dès le départ c'était pourri. Dès le départ, on veut forcer quelque chose dans la réalité. C'est ça le problème ici. Ici, le roi, il s'appelle Alom. Il est là. Il est dans la réelle. Le roi, c'est ça la question, ils ont demandé à Dieu. À Od. Comme dit le verset. Abba od alom ish. Et regardons dans la Torah, ce terme alom, on le voit. Regardez au début l'Exode, de Shemot. Donc c'est page 91 de l'édition là. Chapitre 3. Où Moshe aya roé et son yetro, rotno, kohen midian, veinag et tatson achar amidbar, veyavo el ar elokim choreb. Moshe, Moïse, était le berger du troupeau de Yétro, son beau-père, le grand homme de Midian. Il a conduit le troupeau au fin fond du désert. Il est arrivé à la montagne de Dieu, au lieu dit Horeb. Vayar malar Hashem ela belavatesh mitor asne. Vayar veine asne boer baesh vasne enenu ukan. Un envoyé de Dieu, l'ange de Dieu, s'est apparu à lui dans une flamme de feu de l'intérieur du buisson. Il voit, et voilà le buisson flamboyant dans le feu, et le buisson n'est pas consumé. Donc c'est ce qu'on appelle en français le buisson ardent. Donc il y a Moshe, il voit un buisson dans la steppe, un buisson et une flamme dans le buisson, et le buisson qui devient pas de la cendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yomer Moshe, Asurana Vere et Amare Agadol Azé. Madoua lo ivar asne. Moshe dit, je vais me détourner de mon chemin pour aller voir cette vision grandiose. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Vayar Hashem ki sar lirot. Dieu vit qu'il se détourna pour voir.
Bon. Oui, j'ai coutume de dire que peut-être nous, il y a des grandes visions, mais on est trop pris par nos trucs pour aller voir. Dieu vit qu'il s'est détourné pour aller voir. Il y avait un truc qu'il ne comprenait pas, il avait quelque chose à faire, Moshé. Tout le monde a quelque chose à faire. Il dit, il faut que j'aille voir, que je me détourne de mon chemin pour aller voir. Et Dieu vit qu'il s'est détourné de son chemin pour voir. Vayomer, Vayikra Elav Elokim Mitov Aspé. L'Éternel l'appela de l'intérieur du buisson. Vayomer, Moshé, Moshé. Dieu lui dit, Moshé, Moshé. Vayomer Ineni. Il dit, je suis là. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Vayomer, Al Tikrav Alom. Ne t'approche pas de là. T'approches pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Moshé voulait s'approcher. Dieu lui dit, ne t'approche pas. C'est très important. C'est-à-dire que Moshé, ça va être le maître. C'est lui qui va recevoir la Torah, qui va transmettre la Torah. Mais Moshé ne sera pas le roi. Le roi, premier roi, ça va être Shaul. Ou sur qui on dit à l'homme, est-ce que l'homme, le Ish, est à l'homme, est là. Le roi, il s'appelle à l'homme. Moshé, ça ne sera pas le roi. Avant d'arriver à la dimension de royauté, il faut d'abord des siècles d'études de Torah qui, après, engendreront la possibilité du roi qui est à l'homme. Dieu dit, première chose, ne t'approche pas de là. C'est la Torah qui va donner la possibilité qu'il y ait un homme qui va être Shaul. Alors, on voit le terme à l'homme qui est là. C'est le roi. Et Moshé n'est pas le roi. Moshé, c'est le maître. C'est l'étude de la Torah. Le roi, c'est autre chose. C'est autre chose. Il peut, peut-être il doit être un maître de Torah. Mais ce n'est pas le maître de Torah. Alors, on va essayer de synthétiser notre étude ce soir par le verset suivant. Et on s'arrêtera pour le moment. Regardez, il demande à Dieu, on reprend dans Samuel, dans Shmuel, il demande à Dieu, est-ce que l'homme est là? Vayomer Hachem, donc Dieu répond, Iné ou Nerba Elakeru. Il est caché dans les objets. Est-ce que l'homme est là? Il dit, mais où est Shaul? On cherche partout. Il est où Nerba et la Kelim? Il est caché dans les objets. Rachid dit, il est caché, première explication de Rachid, au vestiaire, dans les bagages. Il est caché dans les vestiaires. Ouais. Mais il est caché, donc Dieu répond, il est caché, il ne veut pas qu'on le voit. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est le premier roi, premier contact que le peuple juif a avec le premier roi, ouais, il ne veut pas qu'on le voit. Il est gêné, et qu'on... c'est fou quand même, c'est fou. Et nous verrons la prochaine fois que la royauté et la pudeur et dans le peuple juif va toujours ensemble. Alors on les devoirs là, qu'est-ce que ça a à voir la royauté avec la pudeur? C'est le contraire. Le pouvoir, c'est je sais pas, François Hollande, il est là partout. Ouais, c'est fou quand même. Je comprends pas moi cette histoire. Qu'est-ce que ça a à voir la royauté avec la pudeur? De fou, ça, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que ça a à voir? Les enfants d'Israël, vous savez qui c'est le premier roi? Il est caché au vestiaire. C'est de ouf, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc. C'est Zarbi, non? Allez, alors, ça, c'est les devoirs. Alors, mais si, c'est vraiment des devoirs de vacances, parce que la semaine prochaine, Je ne fais pas court. Là. Pour moi, je prends du temps pour préparer Pessah. Alors, on reprend après Pessah. OK. Bon, mardi soir, il y a cours. Mardi soir, il y a cours à la Yeshiva. Mais jeudi prochain, relâche.
Voilà. On lira votre livre. Ça, quelle page?
Il y a 50 pages là-dessus. Vous verrez, je verrai ce que vous avez. Sans blague, il y a 50 pages sur cette question. Peut-être plus. Hein. Quand je dis 50, c'est au pif, à la louche. Hein. Il y a peut-être plus que 50 pages là-dessus. Sur cette question. Qu'est-ce à voir la royauté avec la pudeur? Bon.
Bien, bonsoir.